Chaque selfie de Laetitia est désir d'être admirable, espoir de compter pour quelqu'un. Satisfaction d'exister en tant que telle et d'être vue par un public d'amis. On pénètre dans ce que Pérec appelle l'infraordinaire. Le langage du quotidien, le décor familier, le mois des travaux et des jours et, en fin de compte, une non-littérature qui en est tout de même une. Éditant dans les années 1920 le journal de Nelly, une petite fille russe sous le bolchevisme, Joseph Kessel célèbre sa faculté d'analyse, sa curiosité intellectuelle, sa maîtrise du style. À 14 ans, Nelly a déjà vécu l'arrestation de ses parents, la guerre civile, la terreur rouge et blanche, la faim, les déménagements incessants, le spectacle de la mort et des corps torturés. Elle livre un document bouleversant, récit d'une jeune fille qui se soucie des pauvres, qui aime les fleurs, le ciel bleu, les montagnes et l'amour, et qui cherche à voir clair en elle. Vivre l'enthousiasmait. Elle s'est noyée à 17 ans, en tombant dans une cascade. Laetitia Perret n'avait pas les ressources de Nelly Ptashkina ou d'Anne Frank, mais comme elle, elle est morte avant l'heure. Portant en son cœur pur la marque de la violence, du chaos, de l'insécurité affective, de l'effondrement maternel, elle aimait rester des heures devant la télé, sur le canapé du salon, au cœur d'un monde chaud, stable et enveloppant, le seul endroit rassurant qu'elle se soit trouvée. La petite fille des caves jouissait enfin de sa sédentarité. Elle vivait sans croyance dans un monde dont elle avait parfaitement saisi la signification et les lois. Elle consacrait une bonne partie de son énergie à tenter de s'y faire une toute petite place. Si son romantisme de midinette se conjuguait à un apolitisme total, une indifférence absolue à la culture et à la vie de la cité, ce néant spirituel n'empêchait pas une conscience vibrante d'elle-même. Sa solitude, sa détresse, le sentiment de sa détresse étaient compensés par une force intérieure et une capacité de résilience auxquelles tous ses proches rendent hommage. Elle avait du caractère. Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle savait ce qu'elle voulait. Au procès d'appel, le président a lu un extrait d'une déposition de Jessica devant les gendarmes, quelques mois après la disparition de sa sœur. Elle était influençable, elle n'en faisait qu'à sa tête. Le président : n'est-ce pas un peu contradictoire ? À la barre, Jessica confirme ses propos. Elle était obéissante, mais aussi rebelle. Laetitia et Jessica se servaient beaucoup de leur portable, pour aller sur Facebook, envoyer des textos, appeler leurs parents sans être entendues par Monsieur Patron. Elles avaient un forfait habituel de 15 ou 20 euros. Un jour, Madame Patron a reçu la facture de Jessica, qui s'élevait au triple. Elle l'a grondée et par la même occasion a vérifié ses appels. Elle s'est aperçue que les jumelles correspondaient avec leur père pendant les heures de cours. Nouvelle mise au point. Pour votre peine, les deux téléphones resteront à la maison jusqu'à la fin de la semaine. Le lendemain, Franck Perret a débarqué au lycée de Machecoul. Pourquoi vous répondez pas? Monsieur Patron a confisqué nos portables. Franck Perret leur a racheté illico deux téléphones. Le mois suivant, elles ont fait un dépassement de 600 euros chacune. Sur le compte du papa, cette fois-ci. Chapitre 28. Le criminopopulisme. À l'hiver 2011, deux logiques s'affrontent. Pour le président de la République, le fait divers exige une réponse à la hauteur de l'émotion populaire. Un récidiviste lâché dans la nature, sans aucun suivi, a sauvagement tué une jeune fille. En plus d'être choqué par l'horreur du crime, les Français éprouvent une défiance vis-à-vis de l'institution judiciaire. Les peines ne sont pas exécutées, on n'a plus de justice. Il y a eu un problème dans le fonctionnement de l'institution. Ce problème, il faut le régler. Les acteurs de la chaîne pénale doivent être placés en face de leurs responsabilités. Un système pris en faute se protège toujours, mais l'homme politique est là pour secouer les corps constitués, empêcher les réflexes d'auto-justification, rejeter les excuses toutes trouvées. C'est le fatum, le manque de moyens, etc. Pour les magistrats, cette mise en cause est injuste. C'est l'incurie des pouvoirs publics qui a rendu impossible le suivi de Meillon. Les JAP sont débordés, les SPIP sont débordés, tout le monde le sait à l'administration pénitentiaire